Jeudi 6 mai, voici l'édition européenne du Canada en direct. Ici Adrien Lachance, bonsoir. En manchette au Nigeria, un massacre survenu dimanche a fait au moins 630 morts. En Irak, les affrontements entre les forces de la coalition et les miliciens chiites de Moqtada al-Sadr font des dizaines de morts. Et au Canada, le premier ministre Paul Martin déplore les sévices infligés à des prisonniers irakiens par des soldats américains. En partie analyse, abus de prisonniers par des Américains en Irak, réaction de la communauté arabo-canadienne. Hausse spectaculaire du prix de l'essence au Canada, pourquoi? Et l'Europe à 25 et les défis pour le Canada. Et puis ne manquez pas le sens des affaires après ce Canada en direct. Au Nigeria, des témoins et un responsable de la Croix-Rouge rapportent qu'au moins 630 personnes ont été tuées dimanche dernier au cours d'une attaque menée par une milice chrétienne contre une communauté musulmane du centre du pays. Le massacre s'est déroulé à Yelwa, une communauté paysanne du comté de Chendom, située à 300 km à l'est d'Abuja. Un bilan officiel avait auparavant fait état de 67 morts. Les assaillants appartiendraient à l'ethnie des Tarok. On estime à 10 000 le nombre de Nigérians qui ont été tués dans ce genre de violence depuis l'élection à la présidence de M. Obasanjo en 1999. En Irak, la pression américaine sur le leader chiite extrémiste Moqtada al-Sadr passe à la vitesse supérieure. Les forces de la coalition et les miliciens chiites de Moqtada al-Sadr se sont violemment affrontés dans plusieurs villes. Les heurts auraient fait des dizaines de morts à Koufa et à Sadr City, le grand quartier chiite de Bagdad. Les chars américains sont également entrés dans Kerbala. Ils ont détruit les bureaux de Moqtada Sadr, qui, lui, est toujours retranché à Najaf. Voici Roger Hawk.
Les combats redoublent d'intensité entre les Marines et les rebelles de Moqtada Sadr. Les forces américaines, qui tiennent plusieurs positions autour de Najaf et Kerbala, ont lancé une offensive contre les deux villes. Le centre de Najaf est toujours contrôlé par les rebelles. Mais les forces américaines ont investi le siège du gouverneur de la ville et nommé un nouveau gouverneur. Si les forces américaines vont tenter de s'emparer de la ville, c'est toute la question aujourd'hui. À l'intérieur de la cité, le leader radical, Moqtada al-Sadr, est toujours avec sa milice embusquée dans sa maison. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt, mais refuse de se rendre. Moqtada al-Sadr ne reconnaît pas le conseil provisoire irakien. Le chef extrémiste ne reconnaît que la loi islamique. Il a d'ailleurs formé un tribunal islamique dans Najaf. Ses hommes de main traquent tous ceux qui boivent de l'alcool ou qui se livrent à l'adultère. À plusieurs reprises, la coalition a déclaré vouloir en finir avec les rebelles et éliminer cette milice formée souvent de déshérités des banlieues populaires de Bagdad et d'autres villes du pays. Si les Marines poursuivent leur offensive, cela risque de provoquer une insurrection populaire dans tout le pays. Pour Radio-Canada, Roger Hawk à Bagdad.
Le quotidien Toronto Star affirme jeudi que la famille d'un homme d'affaires canadien qui a été détenu pendant une semaine en otage en Irak a payé 100 000 $ américains de rançon à ses ravisseurs pour obtenir sa libération. Naji Al-Kouweti, 64 ans, un résident de Toronto d'origine irakienne, a été libéré mardi à Bagdad où il avait été enlevé une semaine plus tôt. Le Toronto Star cite un haut responsable canadien qui n'a pas été identifié et qui affirme que la famille a versé la rançon par l'intermédiaire de diplomates canadiens. Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, Dan McTeague, avait affirmé un peu plus tôt dans la semaine que Naji Al-Kouweti avait été enlevé, non pas pour des motifs religieux ou politiques, mais par une bande de criminels. Un autre Canadien, Mohamed Rifat, 41 ans, a été enlevé au début avril. Aucune nouvelle sur son sort n'a filtré depuis. Le scandale des sévices infligés à des prisonniers irakiens par leur geôlier américain prend de l'ampleur. Le Washington Post a publié jeudi de nouvelles photos choquantes de détenus irakiens humiliés à la prison Abu Ghraib, près de Bagdad. On y voit en première page la photo d'une jeune soldate tenant une laisse au bout de laquelle est attaché un prisonnier nu étendu par terre, le visage grimaçant de douleur. Une autre montre un groupe de prisonniers nus menottés les uns aux autres, couchés sur un couloir de la prison en présence de plusieurs soldats. Le Post affirme détenir un millier de photos numériques sur la vie à l'intérieur de la prison, dont certaines à caractère sexuel. Le Comité international de la Croix-Rouge dit avoir plusieurs fois vainement demandé aux États-Unis de prendre des mesures pour mettre fin à ces sévices, et ce, bien avant les révélations actuelles. Jeudi, le président George Bush s'est dit désolé pour les sévices subis par les prisonniers et affirme que le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld dont la démission est réclamée par plusieurs parlementaires américains, restera dans son gouvernement. Le premier ministre du Canada, Paul Martin, a condamné les sévices et humiliations infligées à des prisonniers irakiens par des soldats américains. Paul Martin a estimé que ces gestes avaient horrifié le monde civilisé. Il a souligné que dans la lutte contre le terrorisme, il ne fallait jamais perdre de vue les valeurs au nom desquelles le terrorisme est combattu. Devant la Chambre des communes à Ottawa, il a bien accueilli les déclarations du président George Bush qui a dénoncé ces actes répugnants et promis que les responsables seraient punis. La Maison-Blanche n'en finit plus de réparer les dégâts causés par la publication de photos de prisonniers irakiens maltraités par des soldats américains. Le président George Bush s'est expliqué devant l'opinion du monde arabe. Il est apparu sur la chaîne de télévision américaine Al-Ura et la chaîne saoudienne Al-Arabiya. Il affirme que les photos sont honteuses et inacceptables. Il a par ailleurs assuré que les coupables seront traduits en justice et que, contrairement à ce qui se produisait sous le régime de Saddam Hussein, les crimes seront punis. Mazen Oudéib de la Fédération canado-arabe a suivi hier toute la journée les réactions et interprétations du monde arabe aux propos du président Bush. Croit-il que M. Bush soit parvenu à apaiser les tensions dans le monde arabe? Réponse.
Je le doute fort. L'administration américaine, et en l'occurrence le président Bush, il a perdu presque toute sa crédibilité auprès des gens de la région là-bas. La seule chose que les gens parfois on entend dire, c'est que cette fois-ci, ils vont cacher le même traitement, ils vont s'assurer que les journaux ne vont pas savoir. Ben c'est un peu ça la réaction. C'est perçu qu'on nie la responsabilité d'un gouvernement responsable et on met la responsabilité juste sur des individus. Alors que d'habitude, même selon la Charte des Nations Unies, les conventions de Genève, etc., une force d'occupation, c'est elle qui est responsable de la sécurité de la population qui est sous occupation. C'est aussi banaliser la gravité de la situation qui prévaut dans ces prisons ou dans les régions qui sont occupées par la force de la coalition.
Autre message du président Bush, la démocratie peut faire des erreurs, dit-il, mais elle est ouverte et elle se corrige, fait des enquêtes, contrairement au régime de Saddam Hussein. On a l'impression qu'il dit que tout ce qui a changé depuis le départ de Saddam Hussein, c'est le fait que maintenant il y aura enquête. Réaction de M. Oudéib.
C'est ça qui est un peu paradoxal et ridicule en même temps. J'ai vu une réaction sur la déclaration du chef d'état-major ou quelqu'un qui est responsable là-bas qui disait qu'il pensait faire une compensation de 2 500 $ pour chaque Irakien qui est tué par erreur, que ce soit dans une prison ou à l'extérieur, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de civils irakiens qui sont tués en cours de route là. Ça veut dire que, encore une fois, avec les déclarations du président Bush, il confirme, et c'est ça la perception à la population là-bas, que la vie humaine là-bas ne vaut pas plus que 2 500 $. Ça veut dire comme c'est à bon marché, c'est dire aux soldats que ça leur coûte 2 500 $ pour tuer un civil innocent. Et ça, c'est très grave que ça vienne d'une personne responsable.
L'administration américaine semble tenter de donner l'impression qu'il s'agit de cas isolés. Comment l'opinion arabe réagit-elle à cette interprétation donnée par l'administration Bush? À nouveau, Mazen Oudéib.
De dire que c'est un cas isolé, mais il n'y a personne qui l'achète. C'est personne qui est convaincu de ça. Ils sont perçus comme ça parce que leurs positions sont toujours biaisées. C'est pas la première fois que cette administration raconte des mensonges au monde entier. Ils ont commencé avec la fameuse question des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Et là, les gens n'ont pas oublié. La mémoire des gens, elle est toujours là, elle est vive. Et cette fois-ci, ils disent que c'est un cas isolé. Et tout d'un coup, on découvre que c'est depuis le mois de janvier qu'il y a des enquêtes là-dessus. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement des cas isolés. C'est cette fois-ci qu'on a vu ces images. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette prison, derrière les murs de cette prison? Pour les gens, c'est la même impression que lorsque c'était sous le régime de Saddam Hussein. C'est comme à la cachette qu'on fait tout ça, là.
C'était Mazen Oudeyib de la Fédération Canado-Arabe. Le Canada vient d'arraisonner deux navires portugais au large de la côte atlantique, tout juste à l'extérieur de la limite des 200 000 marins. Les bateaux pêchaient présumément de la morue, une pêche qui fait actuellement l'objet d'un moratoire. C'est la frégate HMCS Montréal qui a procédé à l'arraisonnement des deux bateaux. De nouvelles règles permettent au Canada de saisir des navires au-delà de la zone des 200 000 s'ils suspectent une activité illégale. Le Montréalais d'origine marocaine Adil Charkaoui devra rester en prison. La Cour suprême du Canada a confirmé jeudi que le certificat de sécurité émis contre lui il y a presque 2 ans est constitutionnel. Cette procédure exceptionnelle permet aux autorités canadiennes de détenir des individus soupçonnés d'être une menace pour le pays sans que la preuve ne soit rendue publique. Il est arrivé au Canada en 1995 et il a le statut de résident permanent. Adil Charkaoui est détenu en vertu de la nouvelle loi canadienne sur la sécurité. L'homme de 30 ans est soupçonné par le Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS, d'être un agent d'une cellule dormante d'Al-Qaïda. Selon divers documents fournis par le SCRS, 2 personnes affirment avoir rencontré Adil Charkaoui en Afghanistan, dont Ahmed Rossam, reconnu coupable de complot en vue de commettre un attentat à Los Angeles à la fin de 1999. Rossam dit s'être entraîné avec lui au cours de l'été 1998. Le tribunal accepte la proposition de la Deutsche Bank de garantir une émission de 850 millions de dollars d'actions d'Air Canada à verser aux créanciers de la compagnie. C'est que la principale compagnie aérienne du Canada est au bord de la faillite. La Deutsche Bank pose par contre plusieurs conditions qui doivent être remplies d'ici 10 jours, comme l'explique Annick Béraud.
En approuvant l'offre de la Deutsche Bank, le juge ontarien souligne que ça apporte un élément de stabilité, un climat de confiance pour permettre à Air Canada d'émerger de façon viable de la protection contre les créanciers dont elle jouit depuis plus d'un an. La Deutsche Bank a offert cette bouée de sauvetage à Air Canada quand l'entente de financement entre le transporteur et le partenaire financier qu'elle avait choisi, Trinity, a expiré, faute d'avoir pu convaincre les syndicats de modifier leur régime de retraite comme l'exigeait Trinity. Il faudra d'ailleurs persuader les employés d'accepter 200 millions de dollars en concession. C'est l'une des conditions de la Deutsche Bank. Des syndicats ont beau protester en soulignant qu'ils ont déjà beaucoup donné, plus $1 milliard en concession l'an dernier, Air Canada rétorque qu'on n'a pas atteint la cible, que ces concessions n'ont pas permis d'atteindre les économies souhaitées. Autre condition imposée par la Deutsche Bank, qu'Ottawa traite Air Canada, côté réglementation, de la même façon que les autres transporteurs canadiens, référence notamment à l'exigence de bilinguisme. Le temps presse pour remplir les conditions de la Deutsche Bank, date limite 15 mai. Et question d'ajouter de la pression, un autre important bailleur de fonds d'Air Canada, GE Capital, a averti que sa propre aide financière est étroitement liée à la finalisation de l'entente avec la Deutsche Bank. Annick Béraud, Radio-Canada, Toronto.
La tension est toujours très grande sur le territoire autochtone de Kanisataké à l'ouest de Montréal, où une intervention policière serait imminente. Des agents de la Sûreté du Québec ont patrouillé le territoire Mohawk de Kanisataké cette nuit. Depuis mercredi, Québec a autorisé la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada à patrouiller le territoire Mohawk en appui aux policiers autochtones. Jusqu'à maintenant, la communauté autochtone n'a jamais permis aux policiers blancs de patrouiller sur leur territoire. D'autre part, certaines sources affirment que la Gendarmerie royale du Canada a elle aussi entrepris la patrouille du territoire autochtone, ce qui n'est jusqu'ici pas confirmé. Des rebelles s'opposent au retour du grand chef légitimement élu, James Gabriels, qui crée une crise politique et des divisions profondes au sein de cette communauté. Lundi, les rebelles ont chassé des policiers autochtones à coups de pierres et de bâtons. Le plan de reconfiguration de l'État québécois, qui va se traduire entre autres par des abolitions de 16 000 postes de fonctionnaires d'ici 2013, suscite des inquiétudes dans le monde syndical et des louanges dans le milieu des entreprises. Les grandes centrales y voient une réduction des services publics. Du côté de l'opposition, on s'inquiète aussi de l'emprise de plus en plus grande du privé dans la gestion des services publics. Les explications de Jean Thivierge.
Sans qu'on sache encore exactement ce que ça signifie et ce que ça implique, le recours au partenariat public-privé est devenu une sorte de clé de voûte pour l'avenir dans l'esprit du gouvernement libéral. La construction et la gestion de routes, de centres de détention, de centres d'hébergement, beaucoup de projets risquent de passer dans ce nouveau moule. L'opposition péquiste craint cette mainmise de plus en plus grande du privé. Sylvain Simard note également que si l'approche du gouvernement est moins brutale, les résultats ne seront pas pour autant différents.
Il n'a pas actuellement la marge de manœuvre politique politique pour vraiment réaliser ses objectifs. Il les reporte à plus tard, mais ses objectifs restent très inquiétants.
De leur côté, les deux principaux syndicats de la fonction publique voient dans le plan de modernisation une réduction pure et simple des services publics. Carole Roberge, présidente du syndicat des professionnels.
Je pense qu'on ne peut pas faire à croire aux citoyens et citoyennes qu'on va couper 16 000 postes, hein, et faire à croire aux citoyens et citoyennes du Québec qu'il n'y aura aucune baisse des services publics.
Michel Sayer, président du syndicat de la fonction publique, craint même l'apparition de la tarification des services publics.
Le fait de non remplacer un fonctionnaire sur deux qui va partir d'ici 10 ans est une garantie de diminution de services et également, en bout de ligne, ça ouvre la porte à la notion de la tarification globale à l'intérieur des ministères et des organismes.
Chose certaine, le gouvernement aura fort à faire pour convaincre les Québécois qu'il peut améliorer les services tout en réduisant le nombre de personnes qui livrent ces services. Jean Thivierge, Radio-Canada, Québec.
Les cours du pétrole, au plus haut depuis près de 14 ans, ont fait une légère pause jeudi à New York. Le baril du brut se négocie actuellement aux alentours de 39,45 $. Toutefois, plusieurs analystes s'attendent à ce qu'il franchisse sous peu la barre des 40 $, un record historique franchi en octobre 1990, 2 mois après l'invasion de Saddam Hussein au Koweït. On s'attend également à ce que le prix du baril demeure élevé dans les prochaines semaines, en raison notamment d'un risque de pénurie d'essence lors de la période estivale aux États-Unis et des craintes de nouveaux sabotages ou d'attaques sur des complexes pétroliers au Proche-Orient. Justement, le sujet de conversation numéro 1 des Canadiens en ce moment, eh bien, c'est la hausse subite et importante du prix de l'essence à la pompe. Pour comprendre le pourquoi de cette hausse et pour la mettre en perspective, je m'entretiens avec M. Antoine Ayoub, professeur d'économie à l'Université Laval de Québec. Il est aussi directeur du groupe de recherche en économie de l'énergie. Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Ayoub, pourquoi cette hausse subite des prix de l'essence d'un océan à l'autre au Canada?
La hausse subite de l'essence est une hausse qui traduit en partie la hausse du prix du pétrole brut. Notre système est un système depuis 10 ans, 12 ans, est un système qui fluctue beaucoup. Vous vous êtes rendu certainement compte que on monte à 6 ou 7 sous et puis le lendemain ou le surlendemain, ça peut baisser de 2 ou 3 sous. En même temps, il y a les multinationales, les raffineurs, mais en même temps, il y a les indépendants, ou ce qu'on appelle les indépendants, et la concurrence est très féroce entre les points de vente, de telle sorte que dans la même journée, le prix de l'essence peut varier beaucoup, ce qui est vraiment très spécifique, hein. Ça devient comme si c'était le marché boursier.
Mais n'empêche que les hausses sont importantes. On est habitué, oui, à des fluctuations, mais de cette importance,
oui,
c'est rare.
Et l'importance provient effectivement en grande partie que depuis 5 ou 6 jours, le prix du pétrole brut ne cesse de monter.
Mmh.
Mais c'est une autre question de savoir, par exemple, combien de temps faut-il mettre pour répercuter cette hausse au niveau du prix de l'essence et au niveau du prix du détail. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'essence qui est dans les stations, c'est une essence qui a été payée à un autre prix. Vous comprenez ce que
ouais.
je veux dire?
Est-ce qu'on assiste à une hausse similaire dans l'ensemble des pays industrialisés?
Eh bien, vous voyez, par exemple, en Europe, pas encore. Mais bon, vous allez, il est certain que l'Europe payant avec des euros, l'euro a pris de la valeur, comme vous le savez, depuis 1 an et demi, 2 ans, d'une manière telle que la hausse du prix du pétrole depuis 2 ans a été effectivement compensée et au-delà par la hausse de l'euro vis-à-vis du dollar, qui est la monnaie, dollar américain, qui est la monnaie de paiement du pétrole international.
Mais justement, M. Ayoub, les Canadiens se plaignent de la hausse, mais le fait est que ce prix demeure bien plus bas que ce qu'on constate en Europe, par exemple.
Absolument, mais absolument. Il est presque, en Europe, il est presque le double du prix canadien.
Oui.
Je parle du prix canadien en dollars canadiens. Il est presque le double. D'une part, parce qu'il est déjà plus élevé, parce que l'Europe taxe plus que les États-Unis et le Canada, la litre d'essence, et deuxièmement, parce que, effectivement, il y a cette différence énorme dans le taux de change.
Vous parlez de taxes. Est-ce que vous croyez que les divers paliers de gouvernement au Canada vont intervenir pour juguler la hausse, par exemple, en réduisant, en baissant les taxes?
Je ne crois pas du tout à cela.
Non.
Je crois qu'aucun gouvernement, une fois que les taxes sont décidées, reculerait pour annuler une taxe. Et surtout, surtout que nous sommes au niveau du Canada, au niveau du Québec, dans les deux cas, dans une situation qui est assez difficile sur le plan de l'équilibre budgétaire. Par conséquent, je ne prévois pas du tout que on vient pour compenser la hausse, diminuer les taxes. Parce que figurez-vous que si la hausse du prix international du pétrole continue, elle peut continuer encore quelque temps, parce que la hausse du prix du pétrole brut est essentiellement, à mon avis, tributaire de la situation politique et géopolitique en Irak et surtout dans les pays du Golfe, avec par exemple l'attentat qui a eu lieu à Yanbu en Arabie Saoudite. Eh bien, tout ceci se répercute sur le marché, la bourse, et les gens qui travaillent à la bourse anticipent des scénarios un peu pessimistes, ce qui fait que les prix montent. Mais il n'y a pas de réalité physique à la hausse des prix. C'est-à-dire qu'il y a assez d'offres.
Monsieur Ayoub, le chiffre qui semble obséder tout le monde au Canada, c'est le passage à 1 $ le litre. Ça s'en vient, à votre avis?
Ça peut arriver. Bon, ben, ça continue la semaine prochaine, la semaine d'après, avec l'arrivée de l'été. Mais surtout aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu, aux États-Unis surtout, un problème de certaines qualités de produits raffinés. Les raffineries n'arrivent pas à équilibrer la demande de tous les produits raffinés. D'où, si vous voulez, cette fois-ci, c'est des produits raffinés qui poussent à une augmentation du prix du pétrole brut et non l'inverse.
Eh bien, on n'a pas fini, en tout cas, d'en parler au Canada. Monsieur Antoine Ayoub, professeur émérite d'économie à l'Université Laval de Québec, merci d'avoir participé à ce Canada en direct.
Je vous en prie, monsieur.
L'un des derniers soldats canadiens à avoir combattu lors de la Première Grande Guerre mondiale, Clifford Holliday, s'est éteint mardi matin à l'âge de 105 ans. Il avait 16 ans lorsqu'il s'est joint à l'armée canadienne au début de la guerre. Clifford Holliday a été blessé deux fois lors de ce conflit. Il ne reste plus maintenant que 8 soldats canadiens encore vivants qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Samedi dernier à Dublin, l'Union européenne a vu ses pays membres passer de 15 à 25 avec l'addition de Chypre, de Malte et de 8 anciennes républiques communistes. Pour souligner l'événement, l'Institut d'études européennes a organisé mercredi à Montréal une table ronde réunissant des personnalités européennes pour discuter des défis que présente l'Europe des 25. Martin Gauthier y était. Martin, quels sont justement ces défis qui attendent l'Union européenne?
Eh bien, Adrien, le plus grand défi sera probablement d'assurer une intégration harmonieuse des nouveaux membres de l'Union européenne. Or, l'Europe des 25 a beau représenter le quart du produit national brut mondial, eh bien, les nouveaux venus ont un PNB qui n'atteint pas la moitié de celui des 15. Et certains ont encore des infrastructures qui datent de l'ère communiste. Bruxelles est conscient de la situation, comme l'explique le chef de la délégation de la Commission européenne au Canada, Eric Hayes.
Dans les années passées, nous avons déjà dépensé à peu près 20 milliards d'euros pour les aider à améliorer leurs structures économiques, douanières, etc. Dans les années 2004 à 2006, nous allons encore dépenser à peu près 50 milliards d'euros sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les contrôles aux frontières, etc., pour qu'ils puissent arriver bel et bien au niveau européen dans tous ces domaines.
Martin, la Pologne est le pays le mieux nanti économiquement à se joindre à l'Union.
Oui, l'économie polonaise est plus importante que les 9 autres nouveaux membres réunis. Et qui dit poids économique dit poids politique. On se rappellera que Varsovie avait d'abord rejeté le présent projet de constitution qui doit être adopté au prochain sommet européen en juin, avant de faire volte-face pour l'accepter. Alors, l'ambassadeur de Pologne au Canada, Paweł Dobrowolski, explique que le compromis fait partie de la culture européenne.
Sometimes with a compromise in Europe, it is two steps forward, one step back.
Alors, parfois, avec une Europe axée sur le compromis, dit-il, c'est deux pas en avant, un pas en arrière. C'est comme cela que l'Europe fonctionne et c'est parfois difficile pour les nouveaux membres de s'adapter à cette philosophie qui ressemble à la façon dont fonctionne le Canada avec son pouvoir central et ses provinces. L'Europe n'est pas encore un État fédéral, ajoute-il, mais il agit comme tel.
Le Canada va-t-il tirer son épingle du jeu dans ce contexte d'une Europe élargie?
Eh bien, Eric Hayes croit que le Canada peut voir l'avenir avec confiance.
l'élargissement présente de grands avantages et bénéfices pour le Canada. Sur le plan géopolitique, le Canada, en tant que membre de l'OTAN et étant un pays qui a deux fois envoyé ses jeunes hommes se battre en Europe pour la liberté et la paix en Europe, a un grand intérêt dans une Europe qui soit stable et pacifique. Sur le plan économique, l'Union élargie offrira de nouvelles possibilités de commerce et d'investissement pour les pays tiers, dont le Canada, qui a d'ailleurs déjà de grands investissements en Europe. Et troisièmement, sur le plan international au sens plus large, l'Union européenne et le Canada sont des entités qui partagent largement les mêmes idées sur le plan international en termes de multilatéralisme, en termes de questions internationales qui sont débattues à l'intérieur des Nations Unies.
Alors plus concrètement, le Canada perdra-t-il au change avec l'entrée de pays comme la Pologne au sein de l'Union européenne?
Eh bien, la Pologne est le premier marché en importance du Canada en Europe centrale et de l'Est. En 2000, les échanges bilatéraux se chiffraient à 428 millions de dollars. Avec son entrée dans l'Europe des 25, eh bien, la Pologne a perdu son statut de nation la plus favorisée et le tarif de préférence générale que lui accordait le Canada. L'ambassadeur Dobrowolski n'est pas content puisqu'il estime que son pays va perdre 60 millions en revenus dans son commerce avec le Canada. Autre irritant, dit-il, les visas d'entrée.
We have lifted the visa restrictions for Canadian passport holders.
Depuis le 1er mai, dit-il, les détenteurs d'un passeport canadien n'ont plus besoin de visa pour se rendre en Pologne à l'intérieur d'un délai de 90 jours. Malheureusement, dit-il, le Canada n'a pas posé le même geste pour les ressortissants polonais. Alors, comme on peut le voir, la construction de l'Europe élargie ne se fait pas sans heurts, Adrien.
Tout à fait. Merci, Martin Gauthier.
Au revoir.
Depuis mon enfance, j'ai jamais eu de chance, j'ai toujours été grassette. Mon Dieu, quelle souffrance, une adolescence passée à la diète.
Grassette. Bon, Maryse, bonsoir.
Grassette, ça veut dire faire de l'embonpoint.
C'est ça. Donc, vous allez parler, si je comprends bien, d'obésité aujourd'hui.
Tout à fait. Un phénomène qui, vous savez, on en parle beaucoup aux États-Unis, que c'est un problème. C'est aussi un problème au Canada. Mais de façon intéressante, c'est en train aussi de devenir un problème dans les pays en voie de développement. Oui. Et ce qu'on vous présente, ce sont des femmes qui ont de la difficulté à se trouver des vêtements parce qu'elles sont, comme on l'a entendu dans la chanson Grassette, en ce moment, on est obligé de changer la façon dont les meubles sont fabriqués parce que les gens sont plus gros. Je vous donne un indice, les sièges sont plus larges. Même qu'on est obligé de changer la table parce que les cuisses n'entrent plus.
Aïe, aïe.
Alors, on a fait un peu une synthèse de tout ça. On vous présente ça aujourd'hui.
Conséquence inattendue de ce que vous nous dites, là, ça me donne faim. C'est étrange.
Vous allez aller manger des frites.
Voilà. À tout de suite, Maryse. Le cinéaste américain Michael Moore accuse Disney de bloquer la distribution de son documentaire Fahrenheit 9/11. Le film en compétition au prochain festival de Cannes dénonce notamment la politique du président Bush avant et après les attentats du 11 septembre 2001. Miramax, une filiale du groupe Disney, devait distribuer le film en Amérique du Nord. Les explications d'Emmanuel Richard.
Mickey est-il en train de censurer Michael Moore? Le cinéaste trublion de l'Amérique bien-pensante en est persuadé. Selon lui, Disney empêche sa filiale Miramax de distribuer son nouveau documentaire Fahrenheit 9/11 en Amérique du Nord. Des sources à Disney et à Miramax confirment que Disney veut se dissocier du film, et ce depuis un an. Le documentaire est très critique des actions de l'administration Bush avant et après les attaques du 11 septembre. Et il dénonce également les liens du clan Bush avec les grandes familles saoudiennes, dont celle de Ben Laden. Michael Moore critique cette décision peu surprenante de Disney, qui a tout en fait d'une bénédiction, puisqu'elle génère de la publicité gratuite pour son film, en compétition pour la Palme d'Or au Festival de Cannes, qui s'ouvre le 12 mai. Par ailleurs, ce rejet public de Disney a de quoi satisfaire le patron de Miramax, Harvey Weinstein, un démocrate très engagé, puisque ce scandale embarrasse son ennemi, Michael Eisner, le patron de Disney. Déjà sur la sellette, celui-ci ressort de cette affaire encore plus affaibli, soupçonné de vouloir ménager la famille Bush pour des raisons fiscales. Miramax va sans doute vendre les droits du film à un autre distributeur et à très bon prix. Emmanuel Richard, Los Angeles, pour Radio-Canada.
Rappel des titres, au Nigeria, un massacre survenu dimanche a fait au moins 630 morts. En Irak, les affrontements entre les forces de la coalition et les miliciens chiites de Moqtada al-Sadr font des dizaines de morts. Et le premier ministre Paul Martin déplore les sévices infligés à des prisonniers irakiens par des soldats américains. Marché monétaire et financier en Amérique du Nord, en milieu de journée jeudi, le dollar canadien est en baisse de 16 centièmes par rapport à la devise américaine à 72,59 cents. Il vaut 0,60 euros. Marché boursier à Toronto, le TSX est en baisse de 69 points à 8 387. À New York, le Dow Jones est en baisse de 104 points à 10 206. Le Nasdaq est en baisse modérée de 27 points à 1929. On est maintenant à moins de 100 jours de l'ouverture des Jeux olympiques d'Athènes. Le Canada y présentera une plus petite délégation qu'aux Jeux de Sydney en raison de standards plus élevés et de l'absence notamment d'une équipe de soccer féminin et de hockey sur gazon. Le processus de qualification des athlètes canadiens n'est pas encore terminé, comme l'explique la chef de mission adjointe au Comité olympique canadien, Nathalie Lambert.
Encore beaucoup d'athlètes qui sont en voie de sélection là, et puis encore quelques équipes pour lesquelles ça reste un point d'interrogation. On s'attend à une délégation d'environ 275 athlètes, mais c'est variable, à plus ou moins 10-15 là selon ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ils ont jusqu'au 11 juillet pour se qualifier dans certaines disciplines.
Nathalie Lambert n'est pas préoccupée par le volet sécurité malgré l'explosion de 3 bombes hier dans la capitale grecque. Ce qui l'inquiète davantage, c'est l'organisation des sites des compétitions.
Les échéanciers, en principe, finissent tous. Tous les sites devraient être prêts à temps, mais ils n'auront pas le temps de rôder, de peaufiner, d'essayer les systèmes. Ils n'ont vraiment pas de délai. Donc, s'il y a un pépin majeur, c'est sûr qu'ils ont un problème. Mais pour l'instant, les ingénieurs du Comité international olympique sont en arrière. Ils suivent ça de très près. Et sur papier, ça devrait être prêt à temps.
Signalons enfin qu'au championnat mondial de hockey en République tchèque, le Canada s'est qualifié pour les demi-finales en défaisant la Finlande 5-4 en prolongation. Météo, c'est nuageux en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, ciel variable en Alberta et au Manitoba. À Vancouver, le mercure indique 12 degrés, à Edmonton et Regina 5, Winnipeg 8. En Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, c'est nuageux. À Toronto, il fait 20, à Ottawa et Montréal 14, à Québec 11, à Halifax 15. Et puis à Saint-Jean-Terre-Neuve, il y a quelques nuages avec 17 degrés. Enfin, dans le Grand Nord, de la neige, à Iqaluit, il fait moins 1. Eh bien, c'est tout pour ce Canada en direct, édition européenne, en ce jeudi 6 mai. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à notre équipe également, secrétaire de rédaction Jean Berriot, à la technique Jean-Éric Alphonse, adjointe à la réalisation Sylvie Calestagne. Ici Adrien Lachance à Montréal. À demain, restez à l'écoute. Le sens des affaires prend l'antenne à l'instant.